fatigue. On se retrouve avec joie la semaine prochaine.
On peut ne pas écouter de la musique classique régulièrement. On peut écouter le boléro et l'avoir dans sa playlist sans aucun souci.
Si Ravel était vivant aujourd'hui, il ferait de la techno.
Frank Zappa a repris le boléro de Ravel en reggae. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'écouter parce que c'est très très impressionnant.
La série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, nous sommes ensemble sur France Culture. C'est toujours aussi bon pour une émission libre de toutes les substances, de toutes les matières, de toutes les prouesses orchestrales, mélodiques, rythmiques, de toutes les reprises. Une heure de radio sur la musique, en musique. C'est la série musicale. Bienvenue. Nouvel épisode aujourd'hui de notre série L'éternel retour, qui regarde comment un répertoire, une œuvre, une mélodie, des mélodies imaginées par un seul homme ou par une seule femme reviennent inlassablement, habillées d'autres mots, d'autres couleurs, d'autres instruments, reviennent à nos oreilles pour habiter durablement nos imaginaires, qu'on les reconnaisse ou pas d'ailleurs. On a déjà parlé du génie de Chopin, c'est avec lui qu'on avait ouvert cette série musicale. Génie de Chopin repris, transposé partout, même bon, là où on ne l'attend pas. Mais parlons aujourd'hui de celui qui est sans doute après le compositeur polonais, le compositeur français de musique classique le plus repris dans la musique moderne, assurément, tout simplement parce que c'est aussi lui qui lui a donné naissance à la musique moderne. Vous le connaissez bien, trop bien même peut-être, par son fameux boléro, qui est à la fois son étendard et sa malédiction. Véritable tube, monument, en apparence simplissime, extraordinairement efficace. Le boléro est joué dans le monde toutes les 6 minutes. Il est inlassablement repris aussi, de Frank Zappa à Iron Maiden, en passant par Angélique Kidjo que vous entendiez. Il est aussi cité, ce boléro, jusqu'à l'écœurement, mais aussi parfois avec beaucoup d'intelligence, par des musiciens qui, eux, ont bien compris tout ce que peut la musique de Maurice Ravel, car oui, c'est bien de lui dont il sera question aujourd'hui, le mystérieux Ravel, saint patron de tous les musiciens novateurs, qui de son vivant n'a pas eu d'amour connu, mais qui fait encore aujourd'hui l'objet d'un culte. Son boléro est partout, même quand vous ne le reconnaissez pas, mais le reste de son œuvre incroyablement éclectique, qui est allée emprunter jusqu'au jazz, est elle aussi omniprésente dans la musique. Que vous écoutez, que vous le vouliez ou non, je vous le raconte. Ravel, l'éternel retour, c'est tout de suite sur France Culture. Je n'ai écrit qu'un seul chef-d'œuvre dans ma vie et il n'y a pas de musique dedans. C'est ce que Maurice Ravel avait coutume de dire de son boléro. Cette pièce symphonique courte de 17 minutes, originellement un ballet, qu'il compose dans les 5 dernières années de sa vie musicale créatrice pour son amie la danseuse Ida Rubinstein, et qui, dès sa création, va devenir un tube mondial, joué partout, repris, réarrangé, sans son accord parfois, de son vivant, avant que quelques années plus tard, Ravel ne sombre emporté par une maladie mentale qui le contraint au silence. Le boléro, c'est cette œuvre dont le matériau est presque réduit au minimum. Une unique cellule rythmique de deux mesures qui sont constamment répétées et sur laquelle viennent se greffer de façon séquentielle deux mélodies de 16 mesures chacune qui sont répétées dans un schéma précis. C'est à ça que se résume ce boléro. Et tout semble un peu injuste en fait dans le succès de cette pièce qu'on va pas mal entendre au cours de cette heure, qui restait il y a quelques années encore l'œuvre française qui génère le plus de droits SACEM dans le monde. Le fait d'abord qu'elle ait éclipsé dans l'imaginaire collectif toute l'œuvre de l'un des compositeurs les plus éclectiques et géniaux de l'histoire de la musique. Le fait aussi qu'on croit que cette musique est extrêmement simple. Ravel, qui était lui-même dépassé par le succès de son boléro, avait tendance lui-même à minorer son génie. « Je souhaite vivement qu'il n'y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre », écrit-il. « Elle représente une expérience dans une direction très spéciale. Il ne faut pas penser qu'elle cherche à atteindre plus ou autre chose qu'elle n'atteint vraiment. » Avant la première exécution, d'ailleurs, j'avais fait paraître un avertissement qui disait que j'avais écrit une pièce de 17 minutes qui consiste en un tissu orchestral sans musique, en un long crescendo très progressif. Il n'y a pas de contraste, pratiquement pas d'invention, à l'exception du plan et du mode d'exécution. Les thèmes sont dans l'ensemble assez impersonnels, des mélodies populaires de type arabo-espagnol, et l'écriture orchestrale est simple, directe, sans la moindre tentative de virtuosité. En réalité, il ne faut pas écouter Ravel quand il parle de sa propre musique. S'il existe aujourd'hui plus de 200 reprises du boléro, c'est que chacune, en fait, a réussi à exploiter l'un des fils géniaux que Ravel y tire. Dans cette reprise qu'on vient d'écouter par le big band de Benny Goodman, ce n'est pas par exemple sur le génie du rythme ou du crescendo d'ailleurs de la musique que se base le jazzman pour écrire sa reprise, mais bien sur le génie de la mélodie. Cette mélodie qui a l'air extrêmement simple, mais qui ne l'est pas. L'homme de la rue se donne souvent la satisfaction de siffler facilement les premières mesures du boléro, disait le musicologue Émile Vivier-Hermoz. Mais bien peu de musiciens professionnels sont en fait capables de reproduire de mémoire, et sans aucune faute de solfège, la phrase entière qui obéit à de sournoises et très savantes coquetteries. Ravel, c'était en fait ce génie méconnu de lui-même, dont la modestie légendaire n'a jamais cessé d'étonner, à commencer par le grand producteur de musique, Jacques Canetti.
J'ai assisté au premier enregistrement du boléro de Ravel. Le tout premier qui s'est jamais fait, c'est fait chez Polydor, dans un studio qui s'appelait la salle Bullier, et où il y avait l'orchestre Lamoureux au complet, et Maurice Ravel, fluet, modeste, formidablement gentil, muet, avec un bâton de chef d'orchestre, qui essayait de diriger. J'ai dit d'essayer, parce qu'il se rendait compte que c'était coup-ci, coup-ça. Bon. J'ai donc, je me suis permis de suggérer que Wolf, Albert Wolf, un chef d'orchestre très connu à l'époque, dirige d'abord un peu, et puis qu'on verrait. Et puis finalement, il a tout dirigé. C'est Albert Wolf qui a fait les enregistrements signés Maurice Ravel. Je dois également dire que Ravel avait toujours l'air d'être un témoin totalement passif de tout ce qui le concernait. Modeste, disait rien. Il était formidable. C'est quand il est venu pour son quatuor, il est venu en taxi et a oublié de payer le taxi. Mais c'est pas grave, parce que le chauffeur est rentré. Il a dit à un petit monsieur qui est venu avec un taxi, ça fait déjà 20 minutes que j'attends. Je dis, mais attendez, je vais voir Ravel. Ah, je l'avais gardé pour rentrer. Le quatuor de Ravel fait 50 minutes avec les prises, reprises, tout ça. Je paye le taxi, puis quand ils ont commencé à enregistrer, Ravel était dans la cabine, il écoutait, et puis subitement il me dit, mais je vous jure que ça, il me dit, c'est une belle musique, qu'est-ce qui a écrit ça? Je pensais qu'il plaisantait pas du tout.
The Bomber, vous reconnaissez ce boléro sous les doigts de Joe Walsh, véritable légende de la guitare. On est en 1970 quand il choisit, Joe Walsh, de mettre au mi-temps du deuxième album de son groupe, James Gang, un medley au cœur duquel il va placer un extrait librement adapté mais parfaitement reconnaissable du boléro de Ravel. Ici, en fait, que fait-il ? Eh bien, il affirme sa maîtrise du rythme et de la virtuosité mélodique à la guitare. C'est ça, en fait, qu'il choisit de faire, de montrer qu'il est très fort, très virtuose, pour asseoir sa réputation à ce moment si crucial hein, pour un groupe qui est celui du deuxième album. Et il y a, évidemment, au cœur de cette reprise, le rythme scandé par la caisse claire dans la version orchestrale qui est ici reprise par le batteur Jim Fox. C'est dans cette logique, en fait, que s'inscrivent beaucoup de reprises mythiques du boléro par de mythiques groupes de rock, Iron Maiden, Frank Zappa, qui l'a repris à la fois de manière très rock, mais aussi de manière reggae. Tous cherchent, en fait, à s'approprier le caractère très spectaculaire et intense de l'œuvre, comme un morceau de bravoure virtuose qu'ils chercheraient à reproduire. Mais il est un autre champ de la musique populaire en dehors du rock qui a beaucoup repris le boléro, et qui exploite, lui, plutôt les racines espagnoles de la pièce. Car oui, ce n'est pas simplement un titre exotique qui répondait à la mode de l'époque qu'on doit le boléro. Il ne faut pas oublier que Ravel est bien d'origine basque par sa mère, mère qu'il chérit, mère dont on dit que l'amour qu'il lui porte sera si grand qu'il n'y aura pas de place pour d'autres femmes ou d'autres hommes. La sexualité de Ravel reste un véritable mystère. Il a placé son exercice de style, hein, celui qui est le boléro, sous le patronage de cette tradition un peu hispanisante, par le rythme, mais aussi par les accords de la deuxième ligne mélodique de ce boléro, qui est peuplée de modes musicaux qui étaient assez exotiques dans la musique d'alors, car Ravel a beaucoup recours, dans la deuxième ligne mélodique du boléro, à ce qu'on appelle la gamme andalouse, et donc... Évidemment, fatalement, nombreux sont les musiciens latins qui ont vu dans le boléro, dépouillé de toutes ses complexités orchestrales et notamment de son crescendo, une excellente matrice à fabriquer des mambos. Du délicieux Ravel's Bolero in Mambo, composé par le génial Charlie Palmieri. Charlie Palmieri qui n'est nul autre que l'un des grands inventeurs de la salsa. Comme tous les pionniers de la salsa et donc de la musique latine, il est en réalité né à New York, mais de parents immigrés portoricains. Charlie Palmieri, qui apprend le piano d'une pianiste classique qui vivait dans son quartier, développe un jeu qui lui est très personnel, avant d'intégrer certains des grands big bands de l'époque, notamment celui de Tito Puente, qu'il va accompagner tout au long de sa carrière et avec lequel il va fonder, évidemment, ce nouveau genre qui va prédominer ensuite, qu'est la salsa. Charlie Palmieri, qui a eu l'occasion de passer rapidement à la Juilliard School et qui, on le sait, a évidemment eu à étudier la musique classique française et donc celle de Ravel. Hommage discret, hommage léger dans ce petit mambo qui a fait fureur à New York à l'époque où il est sorti. Mais la présence de Ravel dans la famille Palmieri, on la retrouve ailleurs, car Charlie avait un petit frère, Eddie, à qui il transmet les rudiments de sa connaissance du piano alors qu'il est enfant. Charlie, qui lui, Eddie, Eddie Palmieri, qui lui va développer un style beaucoup plus avant-gardiste que son frère et une tactique de piano très peu orthodoxe, qui va jouer dans beaucoup de groupes de salsa, mais qui va finalement s'affirmer comme un véritable musicien de jazz, un musicien qui est plus dans la recherche. En cela, on sait que l'admiration qu'il porte à Ravel est immense, qu'elle est à peu près partout. Dans l'un des disques qui lui a valu la plus grande reconnaissance de la production, de la profession, et qui lui a valu un Emmy Award, à la fin de sa vie, Eddie Palmieri rend directement hommage à Ravel dans son disque Unfinished Masterpiece et dans une pièce Random Thoughts, où il déconstruit parfaitement tout ce qu'il sait ou tout ce qu'on sait qu'il peut de la salsa, et dans lequel il rend un hommage plus que direct à l'une des pièces les plus importantes de Maurice Ravel, le Concerto pour la main gauche. Random Thoughts, pensées erratiques, on y retrouve dans ces Random Thoughts d'Eddie Palmieri qui lui vaudront un Grammy, des Roland, du Concerto pour la main gauche de Boris Ravel. C'est l'un des chefs-d'œuvre, l'un des tout derniers chefs-d'œuvre du compositeur français postérieur au boléro, dans lequel il intègre résolument des éléments du jazz. On était en 1933 et Ravel n'avait pas raté cette évolution majeure qui se jouait de l'autre côté de l'Atlantique. Œuvre très importante pour toute la suite de la musique du XXe siècle, œuvre qui fera aussi de Ravel résolument l'un des compositeurs préférés des musiciens de jazz. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de formuler, soit pour autrui, soit pour moi-même, les principes de mon esthétique, répondait Ravel à ceux qui lui demandaient de théoriser sur son œuvre. Si j'étais tenu de le faire, je demanderais la permission de reprendre à mon compte les très simples déclarations que Mozart a faites à ce sujet. Il se bornait à dire que la musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours de la musique. »
you so.
Cette chanson, interprétée par Mildred Bailey, est un immense succès à sa sortie dans les années 40. Ça a l'air d'être une chanson originale avec ce mode mineur très, très cher au jazz et notamment aux belles complaintes. Très belle voix de mezzo ici de Mildred Bailey. Et pourtant, ici vous écoutez purement une transposition de la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, transposition quasiment littérale. Cette pavane, c'était l'une des toutes premières œuvres du jeune Maurice Ravel. Maurice Ravel qui insistait pour qu'on la joue extrêmement lentement. Là encore, il s'agit d'une œuvre que le compositeur chérissait relativement peu. Il la jugeait trop simple. Si simple qu'en réalité, tout le monde s'en éprend. Elle a été reprise, cette adaptation jazzistique de la pavane sous le titre The Lamp is Low, par plus d'une quarantaine de jazzmen, et notamment par l'immense Chet Baker. Transposition géniale de la pavane pour une infante défunte dans ce The Lamp is Low, interprété ici par la géniale trompette du délicieux Chet Baker. Vous avez entendu à quel point transposer Ravel est efficace, se transpose assez bien dans divers registres. Mais parlons maintenant de ceux qui, loin de simplement le transposer, ont décidé de le citer, ou plutôt de se placer sous son égide ou sous son patronage. Et revenons-en fatalement au boléro. Le boléro dont je vous disais que malgré son apparente simplicité, c'est un morceau et c'est une œuvre qui revêt une grande complexité et qu'on peut se placer sous l'égide de différentes caractéristiques. Évidemment, ce qui caractérise le boléro, c'est cette fameuse ritournelle. La ritournelle qui commence dès le début du morceau, qui est la clé de voûte du morceau et qui, effectivement, se base sur trois éléments. D'abord, la cellule rythmique de la caisse claire, qui est ensuite doublée par plusieurs instruments, d'un accompagnement harmonique sur le deuxième et le troisième temps, et d'une basse immuable. En fait, on l'entend à peine, mais elle est cruciale, qui martèle la mesure à trois temps et qui infirme finalement ce do majeur. C'est elle qui va porter le crescendo. Ça, c'est l'une des constantes du boléro que certains musiciens vont reprendre en changeant la mélodie et en gardant, conservant les caractéristiques follement émouvantes du crescendo, et notamment, vous l'avez deviné, bien sûr, l'immense Gilbert Bécaud qui, lorsqu'il vit un amour déçu en 1961, essaye de trouver une solution musicale pour traduire l'intensité des émotions qui vous traversent, l'intensité qui vous mène presque jusqu'au gouffre ou au suicide, car en l'occurrence c'est un peu ce qu'évoque cette chanson. C'est ce qu'il décide de faire, Gilbert Bécaud, en 1961, dans sa chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?» pour refaire le récit de sa rupture, c'est de garder cette fameuse ritournelle, cette base rythmique, et le crescendo qui, concrètement, caractérise le boléro, et lui, d'inventer une autre ligne mélodique qui lui est propre, et ça donne ce petit chef-d'œuvre de la variété française.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? C'est lui. Pourquoi? Pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui? Pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. je n'ai vraiment plus rien.
Soixante ans déjà que ce « Et maintenant, que vais-je faire ?» retentit dans nos oreilles avec tout son génie. La reprise de la ritournelle du boléro par Gilbert Bécaud dans cette chanson, dans laquelle il s'affranchit des lignes mélodiques écrites par Ravel, mais dans laquelle évidemment il conserve la puissance, le génie d'orchestrateur de Ravel. Car qu'est-ce que le boléro sinon un exercice d'orchestration pour un compositeur dont on dit qu'il a sans doute été l'un des meilleurs orchestrateurs de tous les temps? Rappelons que c'est à Ravel que l'on doit l'orchestration des tableaux de Moussorgski, qui sont elles aussi l'une des œuvres les plus jouées dans le monde grâce à cette orchestration géniale de Ravel. Ravel avait ce talent de faire jouer des timbres, des couleurs comme absolument personne. Et c'est souvent sous l'égide de Ravel qu'on veut se placer quand on veut nous aussi raconter quelque chose du génie, de la maîtrise, non seulement évidemment de la voix, mais aussi de tous les moyens qui sont à la disposition d'un musicien. Figurez-vous que c'est dans le rap qu'on trouve l'un des hommages les plus intéressants à ces possibilités d'orchestration de Ravel à travers le boléro. On est en 1999 quand un jeune collectif de rappeurs et de producteurs décide de s'imposer sur la scène française. Ils sont géniaux, ils s'appellent le Saiyan Supa Crew. Et au cœur de leur premier album, ils vont placer une chanson, un titre qu'ils baptisent Trop Agile, dans lesquels ils entendent démontrer l'immense agilité de leur voix, mais aussi leur maîtrise des beats, des rythmes. Et bien sûr, le sample qu'ils choisissent, c'est celui, encore une fois, de cette ritournelle du boléro de Ravel. Extrait.
Qu'il en a dans tous les cas. Le S-S-C-N.
Trop agile, l'imbécile est balancé. Tu tombes dans le vide. Tu prends pour Mr. Hyde, appelle le balanceur. C'est qu'il tu n'es pas de taille. Les chiffons dans ton champ se rabillent. Devant toi, c'est parmi qui défile. Trop agile, l'imbécile est balancé. Tu tombes dans le vide. Tu prends pour Mr. Hyde, appelle le balanceur. C'est qu'il tu n'es pas de taille. Les chiffons dans ton champ se rabillent. Devant toi, c'est parmi qui défile. Devant toi, c'est pas fini, c'est fini.
Contre un décis, le disciple vise l'autre, rendra indécis. Viens, me teste, et tu pars fumer.
Niqué,
par mon flow parfumé qui part fumer texte. Mes écritures, mixture de style, engendre une tortue. Ferme ta gueule, en plus ta tortue. Regarde de Baby Solo, même si j'arrive solo. Tu flippes de mon comeback comme si j'étais qu'un solo.
Trop agile, morceau fleuve qu'on vous invite à écouter dans son intégralité, dans lequel le Sayan Supakru et toutes ses voix démontrent à quel point il maîtrise les changements de beat, les changements de rythme et maîtrise l'incroyable richesse des trilles dans leur flow. Et pour cela, se place sous l'égide du génie orchestral de notre ami Maurice Ravel et de son boléro. Boléro qui donc a été samplé et qui est aussi cité en fait comme une espèce de référence qui n'importe pas nécessairement, sur lequel on ne construit pas un morceau, mais sous lequel on se place, auquel on souhaite rendre hommage. Le boléro comme un morceau total, comme une tentative d'expérimentation, une tentative de dire tout ce que peut la musique. Il est un des novateurs, des grands interprètes de musique italienne que l'on chérit ici à la série musicale, qui n'a pas boudé son plaisir. Et s'est offert un morceau fleuve dans l'un des EP les plus importants des années 2020, à mon sens. Il est italien, il s'appelle Andrea Laszlo De Simone. Il pratique une pop symphonique dont on peut vraiment dire qu'elle est l'héritière de ce que Ravel ambitionnait de faire. Hommage tardif dans le sublime Conchiglie.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Thank you.
Nous ne sommes que des coquilles éparses sur la mer. La pop symphonique d'Andrea Laszlo de Simone qui se construit comme le boléro de Ravel sur une ritournelle qui s'enrichit progressivement de voix et de cordes. Un hommage direct et une citation.
C'était un être épatant, ça avait d'une loyauté, d'un cœur extraordinaire. Mais il a été si malade, parce qu'il est mort, n'est-ce pas? À son enterrement, il y a une chose vraiment émouvante. Une femme du peuple, en le voyant se défiler, ce long cortège, demande à quelqu'un du cortège, qu'on enterre. Alors quant au nom de Maurice Ravel, elle dit... Maurice Ravel, le compositeur, celui-là ne meurt pas. Je crois que Bossuet n'aurait pas trouvé une plus belle raison, funèbre.
La pianiste Marguerite Long qui évoquait son ami Maurice Ravel, qui ne meurt pas. Maurice Ravel, dont l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle qui nous a quittés en ce début d'année, celui qu'on appelait le Mozart de la comédie musicale, l'immense Stephen Sondheim, estimait qu'il était sans doute le compositeur qui avait donné naissance à la musique moderne. Si la pop et le rock existent, c'est parce que Ravel... les a inventés. Avec coutume de dire Stephen Sondheim, qui n'a cessé tout au long de sa très longue et très riche carrière de rendre des hommages extrêmement directs à ce compositeur français qu'il a tant admiré. On le sait, à de nombreuses reprises, il a repris le concerto pour la main gauche, toute une série de rhapsodies. Il lui rendait directement hommage dans l'une de ses plus grandes comédies musicales, Into the Woods, où on a une reprise ou une transposition, une relecture célèbre de cette valse qui part dans des zones très grises, cette valse composée par Maurice Ravel au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui transforme les brillantes valses viennoises en des marches militaires annonciatrices du désastre à venir. Stephen Sondheim s'en sert pour mettre en valeur le caractère ambigu d'un personnage magnifique, celui de la sorcière dans Into the Woods, car Stephen Sondheim, lui aussi, estime qu'il doit tout à Ravel.
Je ne sais plus vraiment. J'ai commencé à écouter de la musique classique, j'avais à peu près 10 ans.
Et
je pense que la première pièce de Ravel que j'ai écoutée, qui m'a vraiment saisie, c'était le concerto pour piano pour la main gauche. Je pense que j'avais environ 15 ans. Et c'est vraiment ce qui m'a accroché à Ravel. Hein. Et je suis devenue un fan de Ravel. Je le suis toujours. Je pense également qu'il a une grande responsabilité pour ce qui est devenu avec Debussy, hein, la musique contemporaine, hein, ce qui a à voir avec la Révolution harmonique et effectivement avec ce tournant du XXe siècle. J'adore hein, les harmonies françaises, ces harmonies comme ça luxuriantes. J'aime aussi les harmonies britanniques qui sont plus dures et moins nombreuses. Hein, mais vraiment, c'est Ravel que je préférais et je pense que la pièce qui m'a vraiment plu encore hein, de lui était Alborada del Gracioso, mais j'en suis plus très sûre. Ça a de toute façon commencé avec le concerto pour piano pour la main gauche hein, et tellement que j'avais écrit en fait un essai à l'université sur cette pièce.
Soon it will be boo. Squish. Told a little lie, stole a little gold, broke a little vow. Did you? Had to get your prince, had to get your cow, had to get your wish, doesn't matter how. Anyway, it doesn't matter now. It's the last midnight, it's the boo. Splat! Nothing but a vast midnight. Everybody smash! Splat! Nothing we can do. Not exactly true. We could always give her the boy. No, of course, what really matters is the blame. Someone you can blame. Fine, if that's the thing you enjoy, placing the blame. If that's the aim, give me the blame. Just give me the boy!
No,
no.
No. You're so nice. You're not good, you're not bad. You're just nice. I'm not good, I'm not nice. I'm just right. I'm the witch. You're the world. I'm the hitch, I'm what no one believes. I'm the witch. You're all liars and thieves, like his father. Like his son will be too. Oh, why bother? You'll just do what you do. It's the last midnight, so goodbye, y'all. Coming at you first midnight. Soon you'll see the sky fall. Here you want to be. Have another beam. Things we make are making you rich. Plant them and they saw. Here you want some more. Listen to the roar, giants by the score. Well, you can blame another witch. It's the last midnight. It's the last verse. Now before it's past midnight, I'm leaving you my last curse. I'm leaving you alone. and the garden it's yours, separate and alone. Everybody down on all fours. All right, mother. When? Lost the means again. Punish me the way you did then. Give me clothes and a hunt. Just away from this bunch and the gloom and the doom and the burn.
Après l'hommage de Stephen Sondheim à Ravel dans cette valse The Last Midnight, chantée ici par Meryl Streep dans l'adaptation cinématographique de Into the Woods, qui a des relents très évidents de la valse de Ravel, vous entendez un hommage magnifique du producteur de musique électronique William Orbit, légende hein, de l'électro-britannique, connu notamment pour être producteur régulier de Madonna ou d'Étienne Dao. William Orbit qui estime, et avec lui bien d'autres, que le boléro annonce déjà, évidemment, l'essor de la musique répétitive et qui lui rend hommage ici en improvisant autour de la pavane pour une enfant défunte. Merci à Lou Quevouvillo qui m'a aidé à la préparation de cette émission. C'était Hugo Renard à la prise de son et Jean-Luc Jean Reynaud, l'immense, à la réalisation. Merci à Daniel Sanchez qui m'a fait découvrir les Frères Palmieri. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter, podcaster la série musicale sur toutes les bonnes applications de podcast. On préfère celle de Radio France.